donc électrique. Voilà. À la semaine prochaine, à toutes et tous, donc pour un nouvel épisode de lundi matin.
Qu'on ne rattrape plus. Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas. Je voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Approcher, t'avancer sans toucher la barbe. Je voudrais donner tes yeux à la justice. Impossible de dire les ex-femmes d'office.
En distanciant, en
distanciant, tu perds ton sang.
Une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.
Salut tout le monde, vous écoutez Carapatage, la radio contre toutes les cages, sur Radio Libertaire, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h. Et ce soir, on va vous parler de prison et de colonisation en Algérie. Alors, on avait déjà fait deux émissions sur la prison pendant la guerre en Ukraine, et on voulait aller un peu plus loin pour essayer de comprendre quel rôle pouvait jouer la prison en temps de guerre, qui se retrouve dedans, quelles révoltes les traversent. Et on a commencé à s'intéresser à la guerre d'Algérie sous cet angle. Mais assez rapidement, l'angle de la colonisation il s'est rajouté à celui de la guerre et on s'est retrouvé face à une histoire longue de plus d'un siècle et qui est parlante à plus d'un titre sur le rôle de la prison dans notre monde. Et donc on va commencer aujourd'hui une série d'émissions sur la prison et la guerre d'Algérie, en commençant aujourd'hui par le processus de colonisation. Alors, je vais faire un petit contexte historique, mais avant ça, je vais préciser qu'on n'est pas vraiment historien, personne parmi nous.
Vraiment pas.
Du coup, on fait avec ce qu'on trouve, et si des gens veulent apporter des contributions, eh ben, c'est toujours possible de nous contacter, de nous envoyer un mail, ou par les moyens que j'ai dit un peu avant. Et quant aux autres précisions, quand on parle d'Alger ou de l'Algérie, à cette époque-là, il faut bien se dire que ça ne ressemble pas du tout au territoire algérien actuel, qui est le produit de la colonisation et de la reconnaissance de l'État algérien indépendant. Du coup, il ne faut pas se mettre la cartographie actuelle quand ce n'est pas la même à cette époque-là. Et du coup, pour parler d'Alger avant la colonisation, c'est la régence d'Alger. Et on pourrait... c'est un peu... ça commence avec une histoire de pirates et de corsaires. Enfin, au XVe siècle, c'est un peu l'âge d'or... un âge d'or de la piraterie et des corsaires dans la Méditerranée. Et de nombreux navires sont attaqués, les membres de leurs équipages y sont pris en otage et rendus contre de grosses rançons. Et c'est dans ce contexte-là que deux corsaires s'emparent d'Alger, qui à ce moment-là était sous l'emprise espagnole. Et ils le font avec l'aide des Ottomans, avec la condition que Alger, par la suite, devienne une régence ottomane, un protectorat ottoman. Mais c'est, ils vont garder malgré tout une indépendance hyper grande et vont être quasiment autonomes toute la durée de cette régence. Et cet âge d'or de la piraterie, il commence à il se termine dans les années 1810-1820. Et c'est juste après que la colonisation française va commencer, avec la conquête d'Alger dans un premier temps, en 1830, après 3 semaines de bataille, globalement. Et à partir de là, enfin, pour dire, hein, on va parler principalement de 1830 à 1902 ce soir. Et du coup, toute cette période-là, ça fait 70 ans, et ben c'est une période de conquêtes successives. Du coup, la guerre est constante. Donc, quand ils s'emparent d'Alger en 1830, après, ils entament un front à l'est vers Constantine, qui tombe aux mains des Français en 1837, 7 ans plus tard, et un à l'ouest vers Oran. Et il y a une grande résistance de Abdelkader à Oran. Et ils finiront par se rendre seulement au bout de 17 ans de guerre, en 1847. Et pour finir, c'est seulement en 1902 que les troupes françaises elles s'emparent des territoires de l'actuel sud algérien, avec la reddition de la confédération Touareg Kel Hagar du Sahara en décembre 1902. Du coup, voilà, 70 ans de guerre. Et la colonie algérienne, c'est la première colonie dite de peuplement libre. C'est-à-dire que l'État, il incite à s'y installer beaucoup plus qu'il utilise les moyens, comme il le fait sur d'autres colonies, qui sont le travail forcé, le bagne et tout ça. Du coup, pas mal de gens y vont, qui viennent de Corse, d'Alsace, de Lorraine, d'autres pays européens aussi, des Espagnols, des Italiens. Et cette idée de peuplement libre, elle vise à résoudre un problème qui est que justement, on est dans un état de guerre permanent qui dure pendant des décennies. Et les soldats, ils font leur vie là-bas. Et du coup, il y a cet enjeu-là de soutenir l'effort de guerre avec cette colonie de peuplement. Et à terme, l'idée, c'est que le territoire algérien, contrairement aux autres colonies, soit complètement rattaché au territoire métropolitain. Il est même découpé en départements français. Voilà. Donc ça, c'est l'espèce de grand fil qui se passe, mais tout est loin de se passer sur des roulettes pour les Français, qui doivent affronter énormément de révoltes individuelles ou collectives dans la vie quotidienne ou dans des mouvements de résistance à l'occupation française, et même des mouvements insurrectionnels par moment, avec 3 mouvements qui sont particulièrement importants, comme en 1864, enfin ça dure 2 ans, début 1864 à fin 1865, il y a la révolte à Oran de Ouled Sidi Cher, qui est une révolte très importante. Et en 1870 et 1871, dans la lignée de la défaite française face à la Prusse, et dans le même temps en fait que les révoltes des communards en France, il y a eu la révolte de Mokrani, qui est une insurrection très importante, dans laquelle, en avril 71, il y a près d'un tiers de la population qui s'est soulevée contre les Français. Et de 1882 à 1902, du coup, sur l'espace de 20 ans, il y a toujours une résistance très importante du côté de Oran, notamment sous le cher Bouamama. Et l'instabilité, là, je vous en parle, en Algérie, mais elle est aussi très grande en France, où il y a plusieurs changements de régime, monarchique, puis républicain, puis impérial, puis à nouveau républicain. Et pendant tout ce temps, une très importante agitation révolutionnaire. Et on pense tout de suite aux communes en 1848, en 1871 et tout. Mais en vrai, même de façon moins connue, il y a une énorme... il y a beaucoup de révoltes, beaucoup de grèves, des fois des tentatives insurrectionnelles, et qui se passent en France aussi. sans parler des défaites militaires. Et du coup, étant donné cet état de guerre et cette instabilité permanente, le pouvoir, il s'appuie énormément sur l'armée et il dépend énormément de l'armée. L'armée a beaucoup de pouvoir et elle administre et elle rend la justice dans de nombreux endroits qui sont considérés comme encore en guerre. Et là où l'État français il se considère comme un peu plus installé, moins en guerre, il met en place des autorités civiles. L'idée, c'est d'abord on fait la guerre, puis quand on sent qu'on a plus la main, on pacifie. On l'empêche de se révolter. Et il y a beaucoup de frictions entre les autorités militaires et les autorités civiles. Dans cette émission, du coup, il ne faut pas imaginer les territoires comme figés. Ils changent tout le temps en fonction des révoltes, de qui les gère. Et du coup, on ne vous parlera pas tellement d'endroits, mais surtout de situations, de qu'est-ce qui est, comment ça se passe quand c'est géré par les militaires ou par les institutions civiles. Et on va continuer cette émission sur la colonisation de l'Algérie. Avec Henri.
La mise en place de la justice dans ce contexte-là. Donc, comme nous l'a expliqué Avril, c'est un contexte de colonisation avec le pouvoir qui est partagé entre l'administration militaire et l'administration civile. En 1848, il y a trois départements qui sont créés, le département d'Oran, le département d'Alger et le département de Constantine, qui se situe au nord. Et au sud, les territoires qui vont plus tard s'appeler les territoires du sud restent sous administration militaire. À ce moment-là, dans ce contexte, la mise en place de la justice et du système judiciaire, il a plusieurs objectifs. D'une part, réprimer les militaires indociles. D'autre part, réprimer les colons qui ne respectent pas la loi et surtout réprimer les colonisés dont les actes dits délictueux ou criminels peuvent aussi être une forme de résistance à la conquête coloniale. Donc dans ces trois aspects-là, la justice va être un véritable outil de colonisation et c'est ce qu'on va voir ce soir. Le contexte dans lequel tout cela se passe est celui de la conquête coloniale. Et conquête coloniale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de violence de la part des armées, une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire brûler des champs, brûler des villages, brûler des maisons pour confisquer des terres, pour punir des populations, donc voilà, un contexte très violent qui donne lieu à des épidémies et à des famines, et dans lequel la population algérienne va baisser avant de remonter à la fin du 19e siècle avec la pacification et la fin totale des conflits liés à la conquête. Comme on l'a dit plus tôt, il y a une opposition entre les colons et l'administration civile d'un côté et les militaires de l'autre, avec des militaires qui se targuent de mieux connaître et de mieux protéger la population locale, alors que les colons sont vus comme les rebuts des habitants français ou d'autres pays qui ne seraient pas capables de... Donc il y a des conflits... Et c'est dans ce contexte-là que vont s'installer différentes institutions judiciaires. Ce qui est important de voir, c'est que en 1874, il y a des pouvoirs disciplinaires qui vont être donnés aux juges de paix, donc c'est-à-dire aux personnes qui rendent la justice en milieu civil et aux administrateurs en milieu militaire. Et ces pouvoirs disciplinaires, c'est de pouvoir donner des peines de prison et des peines d'amende sur des décisions unilatérales sans procès, ce qui équivaut en fait à une punition. Ces pouvoirs-là, ça va se passer en même temps que la mise en place de ce qu'on a appelé le code de l'indigénat, c'est-à-dire un code spécial pour les colonisés qui vont à l'encontre du principe d'égalité de la justice française, qui comprend des sanctions collectives, des déportations, un impôt spécifique pour les colonisés, des amendes, et du coup une manière pour les colons, de s'arroger une puissance sur les colonisés. Et ce code, il est créé en 1875 en Algérie, d'abord pour les trois départements que j'ai cités du Nord, Oran, Alger et Constantine, et puis généralisé à tout le pays en 1881, avec ce pouvoir qui est donné aux administrateurs. et progressivement à d'autres colonies de l'Empire français. Mais c'est vraiment en Algérie que ce régime pénal spécifique qui s'applique aux autochtones va être mis en place avec voilà, ce régime pénal spécifique et les lois françaises qui s'appliquent. Et les délits qui sont punis par ce code de l'indigénat montrent à quel point c'est un outil de la colonisation. Parce que le code de l'indigénat punit les actes irrespectueux, les réunions sans autorisation, les départs du territoire de la commune sans permis de voyage, qui en fait supprime la liberté de circulation, les propos offensants vis-à-vis d'un agent de l'autorité, même en dehors de ses fonctions. Et donc on voit à quel point ça restreint les libertés et a posteriori ça a été comparé par les historiens à l'apartheid en Afrique du Sud. Après, il faut quand même nuancer en disant que les administrateurs, ils sont loin d'être tout puissants parce qu'ils sont pas assez nombreux, ils ne connaissent pas la langue. Ils essayent de mettre en place un système d'identification et d'état civil, mais ils peinent vraiment, donc ils confondent les gens entre eux, ce qui n'aide pas à faire cette mascarade de justice. Et donc, de cette manière, les populations locales réussissent à échapper à tout ça. À cette période-là, par rapport au projet colonial français, il y a deux visions qui s'opposent. Celle qui défend le régime pénal de l'indigénat en disant que c'est nécessaire parce que la population locale ne serait pas assez civilisée, ne connaîtrait pas les principes de la justice. Et une autre qui défend la vraie justice avec une volonté de mettre en place des procès, notamment de faire des procès quand il y a des exécutions d'insurgés algériens, pour mettre la justice du côté de la colonisation et donc, via la justice, montrer que c'est un état de droit fort et dans lequel on a envie d'être qui se met en place. Donc vraiment mettre le droit du côté de la colonisation. En fait, dans la réalité, même s'il y a ces deux visions qui s'opposent parmi les colons, parmi les députés français, etc., en réalité, c'est plus un continuum de toutes ces mesures-là. Qui va permettre d'imposer la colonisation aux populations algériennes, auxquelles s'ajoutent des mesures illégales d'internement, de travail forcé et d'assignation à résidence qui sont utilisées à la fois dans les zones civiles et à la fois dans les zones militaires. Peut-être pour finir sur cette idée que les administrateurs et les juges de paix sont loin d'être tout-puissants, peut-être ajouter aussi que le territoire est très grand et que du coup les régions grandes et les régions rurales échappent à la domination et au contrôle. Et donc que ça permet aussi aux populations algériennes de se défendre. Et dans la suite de l'émission, on va beaucoup parler de l'internement. Et donc, ce que j'ai compris de mes différentes lectures, c'est que l'internement, il arrive aussi à un moment donné, donc des peines de prison qui sont données, mais on va l'expliquer plus précisément, il arrive aussi à un moment donné où les colons perdent le contrôle et donc choisissent de mettre des personnes en prison, de déplacer des personnes d'une certaine région pour les mettre dans un pénitencier plus loin, etc. Voilà à peu près le paysage judiciaire qui se dessine entre 1850 et 1900. Voilà où on a ces institutions judiciaires qui se mettent en place en même temps qu'avance la colonisation du pays, quoi.
Et je me disais aussi que c'est toutes les institutions qui se mettent en place par les autorités françaises, mais qui coexistent. J'ai l'impression avec des institutions qui existaient déjà en Algérie avant. Et justement, dans ce truc où tu disais ils ne sont pas assez nombreux, ils ne parlent pas la langue.
Ouais.
Que ça fait aussi que, du coup, ceux qui faisaient office de juge avant dans la régence d'Alger, ils continuent pendant un bon moment de faire juge. Enfin, qu'il y a une espèce de...
Oui, oui.
De travail qui se fait ensemble ou de négociation.
Ouais, c'est... Juste, je réagis juste vite. Oui, c'est les caddies, quoi, qui, et je crois que c'est en 1872 que finalement ils sont peu à peu remplacés entre 1830 et 1872 par des magistrats colons, quoi.
Mm-hmm.
Enfin, disons français, nommés ou désignés par l'État français, quoi. Et en 1872, ils sont officiellement complètement séparés de l'exercice de la justice en Algérie.
Et peut-être aussi pour compléter sur la question de pouvoir civil, pouvoir militaire, il y a beaucoup d'officiers civils colons qui en fait sont d'anciens militaires. Donc, qui ont fini leur carrière militaire ou qui, après les combats, se reconvertissent. Donc, en fait, la frontière entre les deux, elle est aussi poreuse de ce point de vue-là.
Et on va en parler un... Ah, pardon.
Non, je voulais rajouter qu'en parallèle de l'importation d'un système judiciaire, du coup, évidemment, il y a l'importation de la prison, en fait, et l'implantation de plein de types, enfin on y reviendra aussi dans l'émission, mais de plein de types différents de lieux d'enfermement et aussi enfin de lieux physiques et qui participent aussi à l'économie coloniale et à la maîtrise du territoire, quoi. Enfin, et que à la base quand les Français arrivent, il y a presque pas de trucs qui ressemblent à des prisons sur le sol algérien, quoi. Et du coup, c'est une importation de la colonisation.
Et du coup, on a commencé à le dire, mais l'administration repose beaucoup sur les militaires.
Ouais, moi, je vais parler un peu de ce qui se passe donc dans les territoires qui sont sous contrôle du pouvoir militaire. Et du coup, où, dans ces endroits-là, c'est l'autorité militaire qui a le pouvoir de répression, qui va s'exercer à la fois sur les militaires français et sur les indigènes. Et du coup, une répression qui est effectivement, comme le disait Henri, qui est bien loin de la justice française, du modèle de justice pénale française que, par ailleurs, ils essayent de mettre en place, mais qui s'applique du coup surtout envers les colons civils. Et du coup, la justice de guerre, elle suit des nécessités qui sont propres au carcéral de guerre, d'une guerre qui est une guerre de conquête coloniale, qui a aussi du coup ses spécificités. Et du coup, l'autorité militaire, elle va avoir ses propres institutions judiciaires et pénitentiaires. Enfin, judiciaires entre guillemets, du coup. Et au fur et à mesure de l'avancée de la conquête, l'armée française va implanter des lieux d'enfermement. Et du coup, dans une logique qui est vraiment de punition et de sûreté, et pas une logique de réhabilitation des individus comme se targue d'être la justice à la française, quoi. Donc déjà, je vais parler de ce qui se passe en termes de répression des militaires français, où du coup, en Algérie, il y a des lieux d'enfermement spécifiques qui ont été implantés pour des militaires français jugés, que ce soit en Algérie ou en France. Et du coup, ça a été appelé Biribi. Du coup, ça correspond au bagne militaire. C'était pas qu'en Algérie, après c'était dans d'autres pays du Maghreb, en Tunisie par exemple. Et du coup, le but de Biribi, c'était notamment de séparer les bons des mauvais soldats français pour préserver le bon fonctionnement de l'armée. Et c'est devenu, au fur et à mesure de la conquête de l'Algérie, d'autant plus important pour l'armée française qu'il y a la conscription qui s'est étendue au fur et à mesure. Et du coup, le fait qu'il y ait des gens de plus en plus, enfin que dans l'armée, il y ait de plus en plus de gens qui soient enrôlés de force, y compris des personnes, par exemple, qui avaient subi des condamnations auparavant, bah, ça a fait que l'armée avait besoin de faire le tri entre dans les soldats pour pas se retrouver avec des mauvaises têtes, notamment, et donc d'augmenter la répression envers leurs troupes. Et voilà, et du coup, pour quand je dis que la conscription s'est assez élargie, c'est que par exemple, sous le Premier Empire, du coup, au début de la conquête de l'Algérie, c'était le Premier Empire, la conscription, c'était un tirage au sort. Voilà, ils décidaient, tiens, il nous en faut tant, hop, on tire au sort, machin. Et jusqu'à la Troisième République, où il y a eu le service militaire moderne, dit universel, où du coup, tous les jeunes gens de tel âge, de tel sexe, devaient partir faire leur service. Comme Avril le disait, ces bagnes, enfin du coup Biribi, c'est des bagnes militaires. Du coup, c'est différent que dans d'autres colonies françaises, parce que ça n'a pas pour vocation d'enfermer des civils métropolitains. Parce que comme tu disais, c'est une colonie, ça se veut une colonie de peuplement libre, avec des centres de colonisation où il y a des colons qui viennent s'installer de manière volontaire. Et du coup, c'est pas le même fonctionnement, par exemple, qu'en Guyane, où là, il y avait plein de bagnards civils qui étaient envoyés et où en plus il y avait le doublage. Du coup, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient fini leur peine dans le bagne, ils devaient passer la même durée, enfin une partie d'entre eux, ça dépendait de leur statut, mais pour une grande partie, ils devaient passer la même durée en tant que personne libre, mais de rester en Guyane, quoi. Ce qui faisait que la plupart des colons, c'était des gens qui étaient là pas volontairement. Du coup, là, ils veulent faire différemment et du coup, ils veulent limiter le nombre de bagnards pour que ce soit pas un repoussoir pour d'autres que pour des colons volontaires de venir s'installer. Donc, je précise quand même qu'il y a eu quand même 4000 civils qui ont été envoyés dans des bagnes en Algérie. Mais voilà, globalement, c'était surtout réservé aux militaires. Et au fur et à mesure que la conquête avançait et qu'ils ouvraient les bagnes en Algérie, tous les bagnes militaires de métropole, ils ont été fermés au fur et à mesure. Je dis de métropole, mais il y en avait aussi en Corse, par exemple. Et ensuite, je vais vous détailler un peu les différentes infrastructures de Biribi. Donc déjà, comment ça fonctionnait ? Il y avait une partie des soldats qui étaient jugés en conseil de guerre. Donc les conseils de guerre, ils ont existé jusqu'en 1928. Du coup, ils étaient jugés d'après le code de justice militaire et non pas d'après le code pénal. Et du coup, c'est un code qui est plus sévère. Et pour donner un aperçu, pour un outrage à officier, c'était 10 ans de travaux forcés, la peine maximale. Et du coup, les personnes condamnées en conseil de guerre, elles allaient soit dans des prisons militaires. Donc ça, c'était pour les personnes pas encore condamnées, justement, en attente de jugement, et celles condamnées à moins d'un an. Il y avait aussi les pénitenciers pour les peines de plus d'un an et les ateliers de travaux publics. Donc ça, les ateliers de travaux publics, c'était la plupart des gens condamnés en conseil de guerre qui allaient là-bas. Et pour certains, avec la peine du boulet, c'est-à-dire que quand ils bossaient, ils devaient en plus se traîner un boulet au pied, même si cette peine n'a pas été si utilisée que ça par rapport à la peine sans boulet. Et il y en avait d'autres qui étaient simplement condamnés à mort. Ceux qui n'étaient pas condamnés à mort, du coup, à l'issue de leur peine, ils partaient dans d'autres bagnes ou dans d'autres corps spéciaux. Et cette fois, c'était pas des durées, c'était pas comme des peines, c'était pour une durée illimitée, pour la fin, tout le temps de leur service, quoi. Sauf si ils avaient une gratification pour une raison ou une autre. Et du coup, ces autres, par exemple, comme autres bagnes, il y avait les compagnies disciplinaires des colonies. Du coup, c'est là qu'ils envoyaient, ils envoyaient presque que des sortants de prison. Et ils étaient envoyés là-bas sans procédure, quoi. C'était automatique à l'issue de leur peine. Et c'était les pires. C'est considéré comme le pire de Biribi, vraiment les mouroirs, le pire endroit possible. Il y avait des compagnies de discipline un peu moins dures, qui s'appelaient juste compagnies de discipline, et qui, elles, en plus d'accueillir des sortants de pénitenciers ou prisons militaires, accueillaient aussi des personnes condamnées par conseil de discipline. Du coup, c'était des procédures qui étaient beaucoup plus, encore plus expéditives que les conseils de guerre. Et c'était des personnes qui n'avaient pas commis de crimes ou de délits, qui étaient plutôt des indisciplinés, des ivrognes, des fortes têtes, et aussi des jeunes conscrits qui s'étaient automutilés pour éviter leur service. Et voilà, du coup, ces compagnies de discipline, à partir de 1830, ils les installent en Algérie. Et donc, c'est des compagnies où ils ne sont pas armés. Et voilà, et avec dans des conditions dures, mais j'y reviendrai plus tard sur le travail dans tous ces espaces, tous ces établissements, entre guillemets, d'enfermement. Et du coup, à part ces bagnes, il y avait aussi des bataillons, ce qu'ils appelaient les corps spéciaux, qui étaient des bataillons où justement les personnes étaient envoyées, par exemple, à la fin de leur peine. Et il y a notamment les bataillons d'Afrique, où c'était du coup qui récupéraient ceux qui sortaient de peine ou de pénitencier, mais et aussi des jeunes conscrits qui avaient déjà fait des condamnations dans leur vie civile, quoi, avant d'être enrôlés. Et donc ces bataillons d'Afrique, c'était en gros le sous-bataillon, et de ce que je comprends, ils étaient basés en Afrique, comme leur nom l'indique, mais par contre, ils pouvaient être envoyés sur d'autres fronts de l'armée française, quoi. Et du coup, sur le travail, en gros, tout cela, que ce soit les disciplinaires, les bataillonnaires, ou d'autres condamnés par conseil de guerre, ils suivaient dans des camps itinérants l'avancée de la colonisation et aussi en fonction surtout des besoins en main d'œuvre. Et du coup, ils travaillaient à la fois sur les opérations de génie militaire, mais aussi sur la mise en valeur coloniale. Du coup, ils pouvaient construire des routes, des voies ferrées, des fortifications, des ports, des mines, des carrières. Et il y en avait d'autres qui étaient loués à des particuliers, genre des entreprises privées, des fermes, des usines. Et le dernier truc que je voulais dire sur Biribi, c'est que tous ces établissements-là, du coup, quand je dis établissement, encore une fois, c'était pas forcément fixe. Hein. Il y avait les endroits fixes, mais il y avait aussi tous les camps itinérants. Mais tout ça, c'était plutôt gardé par des soldats indigènes. Donc, un peu aussi comme c'était le cas en Guyane, où pour le coup, enfin, c'était pas des indigènes en Guyane, c'était justement des Algériens, ou enfin, en tout cas, des Maghrébins qui étaient envoyés garder les camps en Guyane, les bagnes en Guyane. Mais là, du coup, c'était plutôt à Biribi, en Algérie, c'était plutôt des Algériens qui les gardaient. Et aussi, ça, plus le fait que dans les prisons, ils ne faisaient pas de mélange racial entre les détenus. Du coup, on y reviendra, mais au sein des prisons, les Français étaient mélangés aux Algériens. Et tout ça, ça accentue à fond le racisme. Et ça participe aussi du projet colonial à ce que Français et Algériens ne puissent pas se considérer comme pères, quoi, et restent... ennemis l'un envers l'autre, quoi, même si en fait ils sont même s'ils subissent une répression par les mêmes gens, par le même pouvoir, ben qu'ils continuent à se considérer comme étant différents et n'ayant pas les mêmes intérêts, quoi. Donc ça, c'était pour la répression des militaires français, mais ensuite du coup sur les territoires sous contrôle de l'armée, ben, ils réprimaient aussi du coup les Algériens. Et en fait, du coup, c'était une guerre de razzia, donc ça a déjà été un peu dit, où du coup, l'idée, c'était et de soumettre les indigènes et aussi de faire de la place pour les colons et implanter les centres de colonisation. Et du coup, bah, ça implique une manière de réprimer qui est des décisions expéditives et arbitraires, des exécutions sommaires, des expéditions punitives, l'usage des châtiments corporels, de la torture, du viol... et des décisions qui pouvaient s'appliquer à des villages entiers, où ils pouvaient carrément déplacer des populations, des villages en entier, avec un traitement indifférencié en fonction de l'âge, du sexe et du fait que les gens soient combattants ou non, quoi. Et il y avait des captifs de guerre qui étaient faits, qui étaient placés au début dans des dépôts. Du coup, c'était des espèces de prisons temporaires sur le littoral, où ils enferment les insurgés. Mais du coup, c'est pas des endroits qui ont été transformés définitivement en prison, plutôt au fur et à mesure que la conquête avançait, que les territoires étaient soumis, ils relâchaient les gens et voilà, ça redevenait autre chose. Un autre enjeu des captifs de guerre, c'est qu'il y avait des échanges de prisonniers, voilà, entre des prisonniers de guerre français et des prisonniers de guerre algériens. Donc ça, c'est pour le moment vraiment conquête, mais sauf qu'après, il y a un moment, ils considéraient que le territoire a été conquis, mais ça ne voulait pas forcément dire, comme on l'a vu, que ça devenait sous autorité civile. Il y avait la majorité, en fait, du territoire qui était déjà conquis, qui restait au pouvoir militaire. Et du coup, c'était quand même les pouvoirs militaires qui continuaient de juger les Algériens, et que ce soit des insurgés ou pour des questions de droit commun, de délit de droit commun. Et du coup, il y avait une volonté un peu de l'État, une tendance générale à vouloir juger différemment ce qui était des insubordinations à la colonisation et ce qui était du droit commun, voilà, juste par exemple des vols ou quoi. Mais dans les faits, en fait, ils ne faisaient pas trop la différence parce que, bah, de fait, ils considéraient que si un Algérien il commettait un délit, bah, ça mettait en péril la présence française, même si ce n'était pas un délit politique, en gros. Et notamment quand c'était des délits qui étaient commis contre des colons ou contre des alliés de colons. Et du coup, il y avait... du coup, tout était un peu jugé pareil, ou du coup, ça dépolitisait, enfin, avec un fort truc de dépolitiser la résistance et les révoltes. Et voilà, mais en fait, finalement, dans les faits, de considérer que tout était très politique et que tout devait être mis sous contrôle, enfin, que, en gros, mais on y reviendra, que les Algériens, de manière générale, devaient être mis sous contrôle, voilà, quelle que soit leur position, leurs idées... Voilà. Et du coup, il y a eu des volontés de l'État de réglementer cette justice de guerre, parce que, ben, du coup, il y a, comme disait Henri, il y a cette volonté de montrer que il y a la justice française, enfin de pacifier et de d'absorber l'Algérie et que du coup d'imposer la justice française, mais aussi comme un truc qui légitime la domination. En mode, bah voilà, la mission civilisatrice de la colonisation, quoi, en gros. C'était déjà, enfin, c'est dans cette idée qu'une partie des gens, mais à l'époque, justifie ça et pense que ça va être accepté par les Algériens de cette manière-là. Du coup, ils essayent quand même de réglementer, que ce soit moins arbitraire, de mettre des procédures là où il n'y en avait pas. Mais ils se retrouvent aussi confrontés à des conflits au sein des hiérarchies. Et en fait, sur place, en gros, les militaires, ils sont en roue libre. Et du coup, même quand le ministère de la guerre donne des ordres en disant « Bon, allez-y, mollo, arrêtez de buter tout le monde », ben, sur le terrain, ça ne suit pas forcément. C'est un des trucs aussi qui fait que ça va durer un peu. Enfin, tant que c'est sous contrôle de l'armée, c'est... Mais bon, on va continuer là-dessus sur justement comment ça s'est traduit un peu ces réglementations et comment l'armée rendait justice, quoi.
Est-ce qu'ils avaient un rapport de force avec le gouvernement en France ou en tout cas l'État qui était très dans ce que tu dis là, que même si l'État en France ne portait pas des trucs, enfin ils étaient obligés de négocier avec les autorités militaires en Algérie pour dire l'influence qu'ils pouvaient avoir à cet endroit-là.
Et souvent, c'est l'État qui rétro-pédalé. Enfin, en tout cas, à certains moments, mais pareil, on pourra y revenir plus tard.
Et Pitou, tu voulais continuer ?
Ouais, bah, ça, je veux juste aussi préciser, parce que là, du coup, on parle de beaucoup, beaucoup de changements, notamment en termes de présence de processus un peu judiciaire, de plus arbitraire et de différentes un peu sources genre de décisions d'enfermement. Et de préciser que c'est quelque chose sur lequel on va revenir un peu après, mais à beaucoup de moments, quand l'État français amène des choses, ça superpose à ce qui existe déjà sans forcément le remplacer. Et du coup, c'est important pour comprendre un peu les dynamiques de contrôle social, que du coup, c'est plus, enfin, pas que, mais en partie, créer tout un panel de processus de décision d'enfermement par l'État, et pas forcément que des choses qui se remplace. D'ailleurs, je crois que tu as parlé de différents trucs.
Ouais, bah, l'idée, c'est de revenir, enfin, se redire que pendant toute cette période dont on parle, à savoir depuis le début de la conquête en 1830 jusqu'au début du XXe siècle, mais bon, c'est valable aussi pour la suite, mais en tout cas, à ce moment-là, il y a vraiment cet enjeu de mise en place d'un État colonial avec un droit colonial spécifique et donc qui officialise des formes de punition spécifiques pour les colonisés et qui se décline de différentes manières, que l'on soit dans des territoires militaires ou dans des nouveaux territoires civils. Enfin, comme tu le disais, pendant très longtemps, la majorité de l'Algérie était sous l'emprise des pouvoirs militaires, administrés par des militaires, avec un rapport de force hyper important. Et ça a énormément influencé la mise en place de toute cette panoplie à la fois judiciaire et carcérale. Vous rappelez aussi, bon, peut-être on l'avait déjà dit, mais que pendant très longtemps, tous les migrants d'Europe qui sont venus donc dans le cadre de cette colonisation de peuplement libre, n'était voué à aucune autre forme de répression que celle légale de la justice. Voilà, ils allaient dans des prisons qui est à peu près la même fonction que dans la métropole. Tandis que les colonisés, les Algériens colonisés, si on reprend le langage des colons, les indigènes, eux, pendant très longtemps, étaient donc soumis en premier lieu aux militaires, conquérant, occupant, administrant la majeure partie du pays. Alors, du coup, moi, je voulais revenir précisément sur la manière dont, au fur et à mesure de cette phase, de cette période, est venu l'enjeu de mettre en place un système judiciaire et carcéral spécifique pour les coloniser, pour, entre guillemets, les indigènes comme les colons les désignaient. Et donc, comme je disais, ça a pris des formes différentes, que ce soit sous administration militaire ou civile. D'abord, donc dans les territoires militaires, comme le disait, pendant très longtemps, les formes de punition, c'était des châtiments corporels, voire des exécutions sommaires. Mais il y avait aussi, pour des délits de moindre importance, qu'on pourrait dire, des délits type vol, tentative de vol, très vite, la mise en place de bureaux arabes, à partir de 1844. En fait, c'est une sorte de système pyramidal, avec des officiers français au sommet, et à chaque échelon, des, entre guillemets, chefs indigènes, tels que les colons les appelaient, nommés par les Français, donc avec des caïds au premier échelon, des haras au deuxième, puis khalifa, enfin voilà, ça se déclinait comme ça, plus on descendait dans les échelons. Et donc ces bureaux arabes étaient chargés d'infliger des amendes en territoire militaire pour différents types de délits. À partir des années 1850, donc ça c'était, voilà, il y avait ces formes de, comment dire, de système militaire, mais qui étaient régulièrement remis en question par tous les défenseurs de, voilà, comme on l'a dit, la mise en place d'un vrai système de droit commun qui s'appliquerait, qui serait pas pris en charge par les militaires, mais par un pouvoir civil, et qui s'appliquerait de la même manière, que ce soit pour les migrants européens ou les dits indigènes. Par exemple, en 1858, le chef de l'État de l'époque, Napoléon Bonaparte, décide que les militaires ne pourront plus directement prononcer des condamnations contre les indigènes. Ça crée l'ire des officiers, chefs d'état-major, enfin tous les militaires de l'époque, et tout de suite, Napoléon rétropédale, et finalement dit que le droit commun ne peut pas encore s'appliquer aux colonisés qui ne seraient pas assez civilisés, que bon, faut encore attendre qu'ils soient un peu plus civilisés. Et finalement, l'espèce de compromis qui est décidé, c'est la création de commissions disciplinaires, donc toujours dans les territoires militaires, qui à l'époque, faut dire, donc là on est en 1858, et à peu près à cette période, la quasi-totalité du territoire est sous l'emprise des militaires. Il y a quelques poches de peuplement, donc au niveau des ports, des grandes villes portuaires qui sont... pas sous l'emprise du pouvoir militaire. Bref, du coup, ces commissions disciplinaires en territoire militaire, elles sont composées de militaires et d'un magistrat. Leur but, c'est de suppléer la justice dans la répression de la petite délinquance. Et donc, elles sont vraiment créées pour punir les indigènes, que les indigènes coupables, ou, enfin, d'ailleurs, soit les punir ou dans des procédures où ils seraient victimes, mais j'imagine que ça devait être plus rare. Ces commissions, elles pouvaient prononcer jusqu'à 1000 francs d'amende et jusqu'à un an d'enfermement dans un pénitencier. Alors ça, il y avait deux niveaux de commissions, donc il y avait des commissions subalternes dans la plupart des localités du territoire colonisé, et une commission disciplinaire supérieure à Alger, qui était formée par le commandant des forces terrestres et de mer, du chef du parquet et de deux officiers, et qui lui pouvait prononcer, cette commission pouvait prononcer l'envoi en France d'indigènes considérés comme dangereux. On reviendra plus tard sur cette forme de punition. Prescrire des amendes, des peines d'enfermement pénitentiaire plus importantes, et prononcer des assignations à résidence d'indigènes dans des localités partout dans le territoire. Alors, la forme de punition, l'une des formes de punition spécifiques aux colonisés, qui était la plus répandue, c'était donc l'enfermement sans aucune procédure dans un pénitencier. des pénitenciers qui ont été créés entre 1850 et 1855, qui sont en fait pas seulement des prisons, mais qui sont des prisons où les détenus sont exploités au travail agricole, majoritairement. Alors, il y a d'abord eu... faut savoir d'ailleurs que la création de ces pénitenciers, elle s'est faite en s'inspirant, entre guillemets, des formes de pénitenciers que l'armée française avait créées pour leurs propres militaires, pour condamner leurs propres militaires. Du coup, il y a une espèce de continuité, quoi, à ce moment-là. Dans les années 1850, donc, il y a 4 pénitenciers pour indigènes qui sont créés. Et se développe beaucoup dans les années 1850, donc où ils exploitent les détenus pour le travail agricole. Alors, à titre indicatif, en 1865, sur 2023 hommes envoyés dans ces 4 pénitenciers, il y en avait à peu près 80% qui étaient envoyés du fait des commissions disciplinaires. Pour donner un peu plus de précision sur ces pénitenciers, donc il y en avait un qui s'appelait Bouhanfis, près de Sidi Bel Abbès, donc c'est dans l'ouest du pays, qui a été créé en 1857. Là-bas, les détenus étaient exploités surtout pour tisser l'alpha, et il y avait une carrière de pierre juste à côté où ils étaient aussi exploités. Il y avait donc un deuxième pénitencier à Ain El Bey, près de Constantine, donc cette fois complètement dans l'est, où là-bas les détenus étaient exploités dans les vignes. Les deux autres, Lala Aouda et Sidi Belkacem, alors dans ceux-là aussi les détenus étaient exploités dans les champs, mais très vite ils ont été remplacés par un seul et même. Enfin, ils ont été. Disparu, puis remplacé par un seul et même pénitencier plus au sud du pays qui s'appelait Tadmit. Dans ce pénitencier, Tadmit, il y avait un règlement intérieur qui prévoyait, pour donner une idée, que les détenus travaillaient du lever au coucher du soleil, du coup de 4h30 à 19h en été et de 6h à 18h en hiver. Alors il y avait 2 heures d'interruption prévues, mais sauf en période de Ramadan. Et le dimanche, c'était consacré aux travaux de propreté. Voilà, pour donner un peu une idée des conditions de détention dans ces lieux. Alors, il faut savoir que, donc ça, là, je parle des années 1850-1860. Et à partir des années 1870, en fait, l'accroissement des territoires civils depuis le littoral, aux dépens des territoires militaires, a pour conséquence la réduction des commissions disciplinaires qui n'agissent que là où le pouvoir militaire administre les territoires.
Je me demande si pour les établissements pénitentiaires dont tu parles, c'est pas le cas aussi, et l'établissement de Tadmit, là, il n'est pas le plus loin possible au sud dans les territoires militaires, justement pour pouvoir durer le plus longtemps, ou... Corrige-moi si je me trompe.
Si, j'allais y venir. Mais ah, oui. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. L'enjeu, au moment où il crée Tadmit, il le crée effectivement le plus au sud possible dans le territoire colonisé, pour qu'il existe le plus longtemps possible et qu'il soit tenu à l'écart le plus possible de la progression des territoires civils depuis le littoral. Donc il y a vraiment cet enjeu-là.
Est-ce qu'ils faisaient aussi qu'à des moments, ils avaient du mal à faire les convois pour envoyer les gens là-bas, non ? C'est ce que j'ai vu.
Ouais, parce qu'ils devaient à chaque fois faire des transferts, il me semble, d'une commune à l'autre. Et ça durait effectivement des semaines, je crois, effectivement transporter des détenus depuis le nord vers le sud, quoi.
Et du coup, tu disais qu'à partir de 1870, il y avait moins de commissions de discipline du fait qu'il y avait moins de... que le territoire sous contrôle militaire se réduisait. Mais aussi, du coup, 1870, c'est aussi la Troisième République qui où ça lance justement un nouveau truc de volonté de réglementer un peu plus et de laisser moins de place au pouvoir militaire, quoi. Même si, de fait, c'est pas exactement ce qui va se passer au final, mais...
Sachant que ça commençait déjà en vrai sous Napoléon III, où la fin de son règne, il était de plus en plus libéral, et du coup, y compris sa vision de ce qu'était le territoire algérien, quoi.
En tout cas, c'est sûr qu'à cette période-là, il y a cette idée de réglementer, d'officialiser, en tout cas, la répression des indigènes, de l'inscrire de plus en plus dans le droit et jusqu'à la création du code de l'indigénat qui en fait entérine des pratiques qui existaient déjà, mais qui vient bien là pour inscrire dans une espèce de droit colonial des pratiques, des formes de punition, quoi. Du coup, on parlait des territoires civils qui grignotent un peu plus, de plus en plus, au fur et à mesure de la colonisation de peuplement, quoi. Et dans ces territoires-là aussi, il y a cet enjeu d'application de formes de punition spécifiques aux colonisés, de différenciation entre indigènes et colons, quoi. Et ce qui va marquer un peu cette idée dans les territoires civils, c'est la transposition des bureaux arabes dont je parlais tout à l'heure, qui au début de la conquête avaient été créés dans les territoires militaires pour réprimer la petite délinquance, et qui vont finalement être transposés dans les territoires civils au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas forcément revenir dans le détail, mais... Donc en 1854, dans les territoires civils, se mettent en place des bureaux arabes départementaux, donc ce que je dis, l'équivalent civil des bureaux arabes, des bureaux arabes des territoires militaires, et donc qui, pardon, qui peuvent infliger jusqu'à 15 francs d'amende et 5 jours de prison. Aussi, il faut savoir que petit à petit, ces bureaux arabes sont... Enfin, l'administration des territoires civils évolue et finalement, l'ensemble du territoire colonisé en 1868 est découpé en cantons qui viennent remplacer ces bureaux arabes départementaux. Ces mêmes cantons sont ensuite remplacés par des communes avec à leur tête des administrateurs. Et finalement, les pouvoirs... Donc disciplinaires des bureaux arabes sont petit à petit transférés aux administrateurs de ces communes. Ces mêmes administrateurs qui en fait ont la possibilité de demander, de proposer au gouverneur général d'enfermer dans des pénitenciers sans aucune procédure n'importe quel individu. Et c'est comme ça que, aussi dans les territoires civils, finalement, un certain nombre d'individus de colonisés sont envoyés dans les pénitenciers, les trois pénitenciers dont admitent tout au sud.
Et on va continuer avec Maël.
Ouais, bah moi, du coup, je vais. Pendant l'émission, on a pas mal parlé de tout le processus de conflit justice civile, justice militaire et du processus par lequel l'État veut de plus en plus amener une justice un peu, entre guillemets, comme en France, ou en tout cas judiciariser beaucoup les choses, qui allait beaucoup avec la logique, la rhétorique de vouloir assimiler l'Algérie, que c'était une colonie qui était assimilée, ce qui est présent notamment dans le système carcéral. Mais moi, du coup, je vais parler là surtout d'un aspect du système d'internement et d'enfermement qui était présent en Algérie et qui, pour le coup, n'a pas tant été remis en question avec cette progression, ou en tout cas pas du tout sur les mêmes temporalités que ce qui se passait en métropole, qui est toute la pratique d'internement. Et donc, par internement, là, je fais la différence entre la décision d'enfermer des gens avec ou sans justification officielle. Enfin, pas sur le côté que c'est arbitraire ou pas, mais sur le côté de est-ce que les gens qui enferment se basent sur des choses ou simplement se contentent de dire telle personne doit aller là-bas, et aussi potentiellement sans limite de durée. Et donc, par exemple, là, on a un peu parlé tout à l'heure du code de l'indigénat, en précisant que c'est pas vraiment un code comme les autres, parce que ça crée pas des délits en soi, ça crée juste des pouvoirs disciplinaires, et ça crée aussi beaucoup de pouvoirs pour le gouverneur général, notamment le pouvoir d'envoyer des gens en détention dans un pénitencier indigène, donc sous contrôle militaire, mais aussi d'autres possibilités, notamment la mise sous surveillance spéciale, ce qui est en gros une assignation à résidence, sachant qu'à l'époque, ça peut vouloir dire une commune ou un territoire. Et je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est intéressant comme le fait que ça existe pour comprendre un peu le rôle de la tôle et de forme d'enfermement dans le processus du coup de colonisation et de contrôle. Si on fait un peu un parallèle avec la métropole et les moments et les façons dont ça a existé là-bas. Du coup, si on revient à la Révolution française, il y a la création de catégories de gens, notamment les gens sans aveu, ce qui est en gros des personnes qui n'ont pas de moyens de se nourrir soi-même, et pour qui on demande à toutes les polices municipales de faire des listes, et du coup qu'on voit les débuts de populations considérées un peu comme dangereuses en soi, et un fichage qui va ensuite être utilisé pour de l'enfermement, et ensuite juste quelques années après il y a les premiers décrets d'enfermement des personnes suspectes. Et donc là on a toute cette logique qui se crée au début du coup aussi du développement de l'État sur le territoire français, et avec aussi en 1810 la création des prisons, enfin l'officialisation d'une liste de prisons d'État où l'enfermement se faisait sur ordre de Napoléon directement. Enfin, évidemment, chaque fois c'est tout un processus de bureaucrate, quoi, mais globalement, officiellement sur ordre de Napoléon et donc par décret. Et donc, ce format d'enfermement, il est de plus en plus contesté, comme on a vu, avec les changements politiques, mais il va rester à deux moments, et c'est d'abord les moments un peu d'insurrection et les moments où l'État est le plus dans une optique, un peu comme à la Révolution, de protection un peu essentielle, un peu fondamentale de son pouvoir. Et c'est le cas, par exemple, dans les insurrections de 48, où on a un retour à un décret permettant la déportation directe des personnes. Et même si petit à petit, ça va s'estomper, mais revenir régulièrement et sur des formes qui sont assez similaires à ce qu'on voit en Algérie. Par exemple, en 1851, il y a une tentative de coup d'État, et à la suite de laquelle l'État va créer des commissions mixtes départementales qui ressemblent beaucoup, qui seront la base sur laquelle seront créées les commissions mixtes, les commissions disciplinaires dont on a parlé, c'est-à-dire un magistrat, un juge, quoi, un politicien, genre un maire ou un élu, et un militaire, et qui pouvait prononcer une peine d'internement dans une ville. Du coup, c'est aussi encore une fois très similaire à la surveillance spéciale en Algérie, et du coup, c'est beaucoup sur cette base-là que l'État va créer en 58 les commissions départementales d'Algérie. Et après, là où du coup ça éclaire un peu le fait que cette forme d'enfermement elle persiste en Algérie, c'est que à partir de la Troisième République, ça va petit à petit disparaître, et notamment on voit des périodes très insurrectionnelles ou de répression très forte, avec par exemple la Commune de Paris ou les lois contre les anarchistes, qui du coup, même si elles sont très répressives, sont judiciarisées. Il y a tout un processus de judiciarisation et de pas vouloir justement faire des exécutions sommaires, où même si ça reste très arbitraire et expéditif, il y a un peu cette envie, genre de la République, de théâtraliser, de faire un peu le spectacle de la justice, ce qui ça du coup continue à être possible de pas passer par ça en Algérie. Et du coup, ce qui est un aspect spécifique de la répression de ce qui est appelé l'indigénat et du coup du régime pénal de l'indigénat. Et donc là aussi on voit que c'est que ça s'explique un peu, c'est avec la beaucoup de populations du coup qui sont considérées comme un peu intrinsèquement dangereuses par l'État et pour qui cet enfermement il va rester, il va continuer à exister. Et notamment du coup en France ça va être le cas pour avec les délits de vagabondage qui sont aussi similaires aux délits de Béchara ou des personnes qui sont considérées comme des voleurs professionnels. Et du coup il y a toujours cette idée que les gens sont c'est des populations un peu fondamentalement dangereuses et donc à pouvoir réprimer de manière préventive ou en tout cas qui doivent pas rentrer dans le cadre du civil. Et ça du coup c'est quelque chose qui va petit à petit disparaître en France mais qui va continuer à exister en Algérie, en tout cas qui va être beaucoup beaucoup plus restreint sur la quand ça vise les citoyens les pas colonisés et pas racisés par l'État.
Juste tu peux dire c'est quoi Béchara?
Ouais, c'est une pratique qui est associée à du vol professionnel d'animaux et du coup de bétail et du coup ça a un peu créé une figure de la personne colonisée voleur professionnel dangereuse pour ça on voit qu'en France cet internement là il va très vite vraiment se restreindre à juste les personnes considérées comme folles et les travailleuses du sexe qui vont du coup être soumises jusqu'au XXe siècle à des peines de dizaines de jours ou en tout cas il y a plein de cas d'internement. Et donc en Algérie on va continuer à avoir ça qui continue à exister avec plein de systèmes similaires qui sont appliqués mais cette fois à toute la population dans une logique du coup de colonisation et d'écrasement de la population coloniale qui est considérée intégralement comme ça. Et du coup dernier truc que je voulais dire c'est là où aussi on voit ça c'est avec l'existence d'autres peines notamment le fait que il y a des peines d'un peu de punition collective qui continuent à exister et où ça pareil c'était quelque chose qui avait été pensé à la base pendant la Révolution française pour aussi déléguer un peu ce contrôle social, notamment avec une peine qui était créée où les personnes les plus riches d'une commune devaient payer les amendes quand des crimes avec violence étaient commis. Et enfin, voilà, du coup, c'est juste pour rajouter un aspect pour comprendre du coup comment et pourquoi cette façon d'exécuter la punition de l'État persiste en Algérie jusqu'à donc très tard, parce que là le code de l'indigénat dont on parle c'est les années 80 longtemps après la fin de ce type de mesures là en France.
1880.
Ouais, 1880.
En 1875 d'ailleurs la création. Ouais. Ouais, juste pour préciser. On est dans au 19e siècle.
Et non, j'allais enchaîner sur un autre sujet du coup, mais s'il y a de. On peut discuter de ça s'il y a des trucs à dire. Non, du coup, si tu voulais enchaîner sur le. Avec Henri, on va parler de la question des transferts et de la gestion du coup de l'univers carcéral un peu à travers toutes les colonies françaises.
Ouais, déjà du coup, y a une manière de gérer les insurrections algériennes, ça a été de transférer en métropole des résistants algériens qui ont été faits prisonniers et dès le début du conflit et enfermés dans des forts situés sur des îles de la Méditerranée, comme à Sainte-Marguerite ou aussi en Corse, à Calvi, Corté et Ajaccio. Et peut-être les deux exemples de ça qu'on peut donner, c'est que en 1843, il y a 377 membres de la Smala d'Abdelkader, dont Avril parlait au début, que ce soit hommes, femmes et enfants qui ont été déportés à Sainte-Marguerite. Et puis l'autre exemple parlant, c'est qu'en 1870, il y a 1000 Algériens qui, suite à l'insurrection d'El Mokrani, dans les années 70, ont été déportés à Porquerolles. Et leur régime d'incarcération, c'est que généralement, ils peuvent sortir et travailler le jour et sont enfermés la nuit.
Ouais, et que du coup, ça va un peu aussi avec la logique de transfert de population incarcérée dans les colonies, qui suit entre autres une logique économique. Du coup, on voit avec le fait que les gens, il y a ce fait de devoir travailler à côté. Et il y a aussi, du coup, en fonction, pareil, des logiques économiques de fournir, en gros, de la main-d'œuvre, quoi, des changements des populations qui sont censées être déportées. Notamment entre les années 1967 et 87, où il y a l'envie de remplacer, le choix de l'État de remplacer la déportation de prisonniers européens vers les bagnes et les travaux forcés par des prisonniers algériens.
Et du coup, il y a des Algériens qui sont déportés, des insurgés qui sont déportés en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. En Guyane, il y a une hiérarchie qui se met en place où parfois certains Algériens deviennent porte-clés, c'est-à-dire qu'ils ont plus de responsabilités dans le bagne et donc plus de pouvoir dans cette hiérarchie parmi les prisonniers. Et il faut noter sur une note positive aussi que certains parviennent à s'échapper, à s'évader du bagne de Guyane et à rentrer en Algérie. Et en Nouvelle-Calédonie, pour donner un peu une idée plus globale de comment ça se passe dans l'Empire à ce moment-là, dans l'Empire colonial, il y a certains Algériens qui sont engagés dans la répression des Kanaks et à qui on promet en échange une grâce. D'ailleurs, comme certains communards qui sont envoyés en tant que bagnards en Nouvelle-Calédonie. Donc ça nous donne un peu une idée de la gestion globale via les prisons, via les bagnes et via l'enfermement de cet empire colonial. Et peut-être pour finir, on peut parler à la fois des jeunes détenus français et des personnes qui sont condamnées pour troubles, des Français qui sont condamnés pour troubles politiques, qui sont, eux, envoyés vers l'Algérie. Comme le montre l'exemple de la féministe socialiste Pauline Roland, qui est impliquée dans les banquets politiques durant la révolution de 1848 et qui, suite à son arrestation en janvier 1851, est déportée vers l'Algérie pendant un an.
Et donc ça représentait à peu près 4000 personnes, pour avoir un ordre d'idée.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez, enfin, anecdotique, c'est peut-être un mot un peu grave, parce que c'est des vrais trucs que les gens, que 4000 personnes ont vécu, mais que du coup, comme je disais, c'était plutôt la volonté c'était plutôt d'envoyer des militaires que des politiques dans les bagnes du Biribi en Afrique du Nord.
Et aussi, je vais juste préciser, parce qu'on a parlé un peu des lois d'amnistie qu'il y a eu, notamment après le fait que beaucoup de bagnards, dont beaucoup de communards, ont participé avec l'armée à réprimer l'insurrection des Kanaks. Il y a eu quand même une grosse différence de traitement aussi entre les bagnards algériens et européens, dans le sens où officiellement, les deux ont été amnistiés. Et il y a des lois qui amnistiaient toutes les personnes s'étant révoltées dans les insurrections de 1871, donc entre autres l'insurrection en Algérie, sauf qu'elle n'a pas été appliquée, ce qui du coup a eu des conséquences sur le long terme, quoi, fait que les personnes restaient là-bas.
Je sais pas si on a le temps, tout à l'heure, désolé, ça fait revenir peut-être un petit peu en arrière, mais tu parlais des logiques économiques qui sous-tendaient aussi les formes... les formes de système carcéral. Moi, ça me faisait penser à des trucs, et qui vont aussi dans l'idée de qu'il y a aussi des continuités entre ce qui a été mis en place à ce moment-là, en tout cas dans les années 1850-60 en Algérie, et des discours qu'on retrouve aujourd'hui pour prôner certaines formes d'enfermement. Donc peut-être je fais un énorme gap, mais par exemple, moi, dans des trucs que j'ai lus, c'est tout à l'heure quand je parlais des pénitenciers indigènes, donc qui était voué au travail agricole, le premier qui a été créé, en fait, il a été créé avec cette idée de ferme-école. Mais vraiment, c'est ça le concept qui est repris. C'est une ferme-école avec des valeurs éducatives pour les indigènes, enfin, remettre les gens au travail. Enfin, et je sais pas comment dire. Ce discours-là, il se décline de plein d'autres manières. Alors évidemment, on parle pas du tout des mêmes choses. Juste y a quand même cette idée-là qui sous-tendait en partie la création des pénitenciers indigènes.
Pour dire, ils en ont même fait une ferme-école, ils en ont fait une sur base de volontariat, qu'ils ont dû fermer parce que personne n'y allait. Mais pour dire, sur le truc de la continuité, elle est vraiment là. Mm-hmm. Ça se faisait de plein de manières.
Et il y avait aussi, évidemment... dans ces pénitenciers, à des moments, ils mettaient, enfin, toujours pour parler des logiques économiques, non seulement les gens étaient exploités au travail agricole, mais en plus, les détenus pouvaient être mis à disposition de gros propriétaires colons aux abords de la tôle.
Et pour finir, on va finir là-dessus, un peu sur cette émission, quand même, pour. La différence qui sépare un peu les institutions qui existaient avant la colonisation et après la colonisation. Avant la colonisation, il y avait très peu de prisons qui, de tout ce que j'ai pu voir en tout cas, étaient très peu utilisées. Et c'était principalement du droit privé et passif où les gens ils allaient chercher le juge, ils disaient j'ai un conflit avec un tel et ça se gérait comme ça. On passe à une justice publique très active où les flics vont chercher les gens, les militaires vont chercher les gens. Des codes, un code pénal, un code de l'indigénat, plein d'outils, des prisons, de l'internement, du bagne, etc. Tout un tas de trucs qu'on va avoir, mais vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. Du coup, on continuera à décortiquer la tôle en Algérie plus tard.
Salut à tous.
Salut. Force, courage, détermination.
et des parfums qui n'existaient pas. Quelques mystères et maléfices de retour à Fortaleza. Dans les coquillages d'Afrique, une prêtresse a vu ton nom. Maï du Santo et du mystique, dépêche-toi, je tourne en rond. Je suis marin, un peu artiste, j'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique, ne sois pas triste, on se reverra.
É marinheiro, ele é artista, vive nos portos onde estará. Cheio de amor, vive a cantar, não fique triste, ele vai voltar. Tira a carta, joga búzios, a mãe de santo viu seu nome. A mãe de santo é misteriosa, vai ficar louco de esperar.
Alors je chante cette musique, dans l'espoir que tu l'entendras. De Salvador jusqu'à Recife, et même au fond du Ceará. Je suis marin, un peu artiste, j'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique, ne sois pas triste, on se reverra.
É marinheiro, ele é artista, vive nos portos onde estará. Cheio de amor, vive a cantar, não fique triste, ele vai voltar.
Les musiciens ont la technique pour parler avec le destin. Les marins fuient les maléfices et Yemanja a du chagrin. Un peu artiste, j'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique, ne sois pas triste, on se reverra. À l'intérieur, le soleil cogne comme un boxeur devenu fou. La pluie viendra laver les hommes et fera pousser les cajous. En attendant le vent du large, je vais dans le bal du faubourg boire de la bière et la cachasse, danser la nuit, dormir le jour.
É marinheiro, ele é artista, vive nos portos onde estará. Cheio de amor, vive a cantar, não fique triste, ele vai voltar.
Je suis marin, un peu artiste, j'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique, ne sois pas triste, on se reverra. Je suis marin.
Il est artiste.
J'aime les ports.
On gestera.
Et marinière.
Il est artiste.
Vivi nos portos. On gestera. Cheio de amor.
Vivi a cantar.
Ne sois pas triste. On se reverra.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le fronde avec la gloire, nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante, au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante. Près de moi dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps, je chante. Je chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps. Je chante.
Ah, 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Et Urbi comme Orbi, ça n'a pas changé, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est du côté de République, Cirque d'Hiver, tout ça. Et c'est ouvert du mardi au samedi à partir de 14h. Bon, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Jules Durand, on va en parler, on est là pour ça. Avec Monique à la technique, maintenant qu'elle a tout démonté les micros,
elle
a posé son marteau et son tournevis, on va pouvoir entrer en action. Bon, bonjour Roger Colombier.
Bonjour à vous.
Édition Sileps. Jules Durand, une affaire Dreyfus au Havre, 1910-1918. Hein? Je vous disais hors antenne, bien que je ne connaisse pas, j'avais un peu oublié ce que c'était là, je pensais que c'était une affaire connue, et je me suis aperçu qu'il n'y a pas grand écho dessus, non ?
Oui, il n'y a pas grand écho par rapport à Jules Durand. Il y a une association qui s'est créée au Havre, qui s'appelle les Amis de Jules Durand, qui ont fait un travail très, très remarquable. Ils sont allés fouiller les archives nationales, les archives départementales, les archives de la police. Et donc, à partir de ça, ils ont créé cette association. Et ils viennent de sortir, ils ont fait un colloque au mois de novembre 2014, je crois. Et ils ont sorti un bouquin par rapport à ce colloque.
Et vous connaissiez pas avant de commencer le travail?
Non. Je suis tombé par hasard sur un livre qui avait été fait par Alain Scoff en 1987, qui partait au pilon d'une bibliothèque. Et au dos de ce livre, on parlait de Jules Durand, anarchiste, qui était condamné à mort et un syndicaliste à la CGT.
C'est pourtant une affaire qui, à l'époque, a fait du bruit.
C'est une affaire qui a fait du bruit, puisque toute la CGT s'en est emparée, nationalement et internationalement. Il y a eu de la solidarité en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, même aux USA. Il y a Jean Jaurès, qui était un des dirigeants du Parti Socialiste de l'époque, et son journal L'Humanité, qui a pris parti dès le premier jour de la condamnation de Jules Durand. Et il y a aussi un député, Paul Meunier, radical socialiste, qui lui aussi a pris parti pour Jules Durand dans le journal de droite.
Alors, outre l'affaire Durand, on va l'expliquer. Votre livre chez Cilep, c'est très intéressant parce que vous avez tenu à faire un état du prolétariat de l'époque, hein, un état du syndicalisme, un état aussi de ce qu'était la gauche à l'époque, un état aussi de la vie carcérale, qu'elle soit la prison ou l'asile. Ouais. Donc il y a tout un ensemble autour. Alors je vais vous raconter ma vie, ma vie vite fait, parce que vous êtes là pour ça. J'ai fait ce qu'il faut pas faire. On est en plein dans le vif du sujet, rassurez-vous. J'ai lu deux livres en même temps. Le vôtre, Jules Durand, l'affaire Dreyfus, et un livre qui vient de sortir de Gustave Geffroy, Blanqui l'enfermé, et qui a été commencé en 1885, 86, et fini en 1925. Et je lis les deux livres en même temps, parce que je voulais faire une émission sur Blanqui. Je ne sais pas si Blanqui vous inspire.
Oui, oui.
On en reparle. Alors, ça va très bien. Et je croyais que Blanqui était quelque chose que tout le monde connaissait dans certains milieux. Je me suis aperçu que ça devenait très difficile de faire là. Donc je lis les deux livres en même temps et je m'aperçois quoi ? Que juste avant de mourir, Blanqui en 79, 1800 bien sûr, entrevoit Clémenceau, Georges Clémenceau, comme celui qui peut satisfaire le monde ouvrier, le monde des travailleurs. Et on s'aperçoit qu'en 1910, on va employer un terme simple, il est devenu le pire des salauds. Non ?
Absolument. Il faut savoir que Clémenceau est un des premiers qui se bat pour réhabiliter le capitaine Dreyfus. Et puis après, il rentre au gouvernement et comme beaucoup de socialistes de l'époque, il tourne kazakh.
Fondateur de la Ligue des droits de l'homme aussi, Clémenceau, non ?
Je ne sais pas s'il était un des fondateurs, mais il a été un des membres influents de la Ligue des droits de l'homme, oui. Et lorsqu'il rentre au gouvernement, parce que le Parti socialiste, comme il fait actuellement, change souvent de veste pour aller à droite, ben, Clémenceau est le Premier ministre de l'époque, le président du Conseil, Millerand, qui est aussi un dirigeant du PS de l'époque. Époque, change kazakh et vont à droite.
Est-ce que c'est pas très proche, alors je viens d'arriver là, hein. Il y a Aristide Briand aussi qui est premier secrétaire.
Aristide Briand aussi, oui.
Est-ce que c'est pas très proche de ce qu'on va se passer maintenant ?
C'est pas très proche, c'est d'actualité.